J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un musicien, d'un amoureux, des sons et des images aussi. D'ailleurs, les sons ne sont-ils pas comme des images sonores? Compositeur, producteur, DJ, ingénieur du son en son sens le plus noble. Il aime à la fois la musique pour danser et les compositions graphiques. La musique pour danser est quelque chose de plus mental, de plus minimal. Père de famille aussi, 50 ans passés, il fait danser les kids de 16 ans comme depuis 25 ans. Et on comprend qu'il n'aime pas seulement les images et les sons, il aime aussi beaucoup les gens. Et sa manière de les aimer, c'est notamment de les faire danser. Il y a des métiers comme ça, on prend chaque année un an de plus quand ceux qu'on a en face de soi ont toujours le même âge. C'est comme prof de philo au lycée, chaque année les élèves ont 16 ou 17 ans, chaque année le prof a un an de plus. Vertige temporel pas désagréable, il suffit pour cela d'aimer ce qu'on fait et d'essayer de bien le faire pour accepter de vieillir et pourquoi pas de bien vieillir. Il suffit de l'avoir vu une fois faire danser les kids qui ont l'âge de son fils pour comprendre la joie qui est la sienne. Comprendre aussi où il prend son énergie, son élan, ses idées, son envie. Il faut l'avoir vu sourire, sourire et même rire tandis qu'il lève les bras pour accompagner ce qu'il est en train de leur proposer. Ce soir-là, on avait prévu de placer le DJ trop haut au-dessus du sol. Il a demandé à ce que sa cabine soit baissée pour pouvoir voir leurs yeux quand la musique est bonne, pour qu'eux aussi puissent le voir et que son sourire se propage. Et le voir aussi parfois lâcher ses manettes et se mettre à courir sur place, comme un petit personnage de dessin animé, emporté par sa propre musique, un peu étonné d'être là, démiurge soudainement devenu spectateur, et au final, tout simplement, heureux d'être là et de mettre le feu, de balancer du bon son fluide et des bonnes ondes dans la joie d'être ensemble. Mais en fait, comment on fait ? Comment on fait pour produire du bon son ? Comment on fait pour mettre le feu sur un dance floor ? Faut-il être généreux, méthodique, sensuel, cérébral ? Et quand on est à la fois producteur, DJ, compositeur, créateur également de spectacles visuels, comment ces différentes facettes se nourrissent-elles l'une l'autre ? Et au-delà, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde lève les bras parce que le son est bon ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir un des grands noms de la French Touch, surnommé, je me souviens d'un vieux numéro des Un Rock, le patron. Le patron de la French Touch, Étienne de Crécy, est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon, et en sa compagnie, à partir aussi de son dernier album, l'excellent Warm Up, sorti en mars dernier, nous allons nous demander comment travaillent les musiciens, de quelles aventures, intimes ou collectives, naissent les bons sons.
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Étienne de Crécy.
Bonjour.
Ben merci d'être là.
Ben merci beaucoup de m'avoir invité.
J'ai vu vos sourcils se lever quand je vous ai appelé le patron.
En fait, c'est marrant, j'ai un morceau qui s'appelait comme ça, un des premiers morceaux qui est sorti, qui s'appelle Le patron est devenu fou.
Ouais.
Dans le premier Super Discount, tous les titres, c'était des slogans publicitaires.
Ouais, bien sûr.
Donc il y en avait un, Le patron est devenu fou, et du coup, le surnom est resté.
Ah, c'est ça,
donc,
voilà.
C'est un conseil que je peux donner aux jeunes, aux jeunes producteurs, c'est de trouver des noms comme ça, qui après, des noms de morceaux, qui quand on les évoque, ça évoque. Le patron.
Voilà, alors Super Discount, c'était à très longtemps, ça avait été un immense carton. Après, je crois qu'il y a eu Tempo Vision, on va pas retracer, ça fait longtemps, 30 ans. Vous avez plein de casquettes, on va essayer de s'intéresser pendant une heure à comment vous travaillez, à la fois d'un côté la composition, de l'autre la création. Dans votre dernier album, il est beaucoup plus doux, c'est moins un album qui s'appelle Warm Up, c'est moins un album pour danser qu'à écouter la journée. Vous avez invité beaucoup de chanteurs aussi, de chanteuses.
Il y en a un sur chacun des morceaux, oui.
Voilà. Ils ont posé une voix sur votre musique, donc c'est passionnant. Donc voilà, je ne vais pas du tout vous réduire à votre rôle de DJ, mais j'ai envie de commencer par ça. D'abord parce que je vous ai vu il n'y a pas longtemps faire le DJ, et j'ai été très surpris par ce que j'ai vu. Et j'ai envie de poser une question très simple. En fait, comment on fait danser les gens ?
Alors, comment on fait danser les gens ? Alors, déjà, je peux être réduit presque au rôle de DJ. C'est très important. Alors, j'ai pas commencé par là. Je suis arrivé DJ un peu après ma carrière de producteur. Mais j'ai dû m'y mettre parce que j'étais producteur de musique électronique et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire la promotion de la musique électronique.
Ah ouais,
j'y suis allé un peu à reculons. C'est un truc que j'arrivais pas à faire. Au moment où j'ai commencé, on jouait avec des vinyles. Donc, il y avait un côté technique et virtuose qui n'était pas trop, je ne suis pas virtuose du tout.
Ouais.
Donc c'est un peu compliqué. Maintenant qu'on joue avec des MP3, en fait, qui se synchronisent tout seul, il y a beaucoup moins de virtuosité technique à avoir et je suis plus à l'aise.
Ouais.
Et comment on fait danser les gens ? Eh ben déjà en leur proposant une musique sur laquelle on aime danser.
Ouais.
Voilà, et après, alors, en même temps, ça dépend tellement des gens, ça dépend tellement des conditions, ça dépend tellement de... Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, et donc l'idée, c'est d'avoir quand même beaucoup de musique à disposition, et de bien connaître la musique qu'on a en... qu'on a dans son sac, quoi.
Ouais. Alors là, vous avez mis le casque et vous avez...
J'ai mis qu'une oreille.
Vous avez un tic de DJ d'habitude, c'est que vous avez mis une seule oreille.
Ouais.
Parce que quand vous mixez, il y a une oreille, on pourrait dire, dans le présent et une oreille dans le futur. C'est
exactement.
Ça
Il y a une oreille dans le présent et dans le futur. Il y a une dans le futur, C'est un truc qui est assez compliqué. Alors surtout quand c'était... Alors maintenant que ça synchronise tout seul, c'est plus facile, mais avant, quand c'était pas synchronisé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un truc mentalement, il fallait séparer son cerveau en deux, c'est-à-dire la musique que tout le monde entend et l'autre qu'on est seul à entendre et qu'il faut caler à la même vitesse.
C'est ça. Mais c'est encore le cas.
Maintenant, il y a
ça
quand même des,
seul,
y a des. Ça se fait tout seul. Alors, c'est marrant, ça se fait tout seul. Ouais. Il y a plein de DJ qui n'osent pas avouer qu'ils appuient sur ce bouton qui s'appelle Sync, qui fait tout seul. Parce qu'il y a un peu une légende qui dit les vrais DJ, ils synchronisent à la main, alors qu'en fait, on s'en fout de synchroniser. Enfin, le truc qui est important, c'est de choisir la bonne musique, c'est pas du tout
La technique d'ajustement, quoi.
La technique d'ajustement, bon, elle m'intéresse pas tellement.
Mais elle vous a intéressé par le passé ?
Non, j'étais obligé de passer par là. Moi, c'était plutôt compliqué, justement. Quand je jouais en vinyle, mes sets étaient moins... avaient moins d'allant et moins... j'étais moins dans le rebond, on va dire, parce que je galérais pas mal à synchroniser. Il y a des DJ qui sont extraordinaires, qui arrivent vraiment, en une seconde, à caler un disque à la même vitesse. C'est un exercice assez difficile. Et il y a des DJ qui sont incroyablement forts à cet exercice-là. Mais c'est pas pour ça qu'ils passent obligatoirement de la bonne musique.
Ouais, je comprends. Mais quand même, pour nous, quand on est sur le dance floor, moi je trouve ça toujours très passionnant de voir le DJ qui écoute ce qui va venir. Pour moi, c'est ça qui est fascinant aussi. Et vous dites que c'est plus trop le cas au fond.
Alors si, j'écoute ce qui va venir quand même pour voir si l'ambiance du morceau suivant, il va aller avec...
Ah oui, au-delà de la synchronisation du rythme.
Au-delà de la synchronisation. Alors parce qu'il y a aussi des DJ maintenant, comme c'est la synchro est automatique, il y a des DJ qui jouent sans casque. Et donc qui connaissent leur playlist, qui connaissent leurs morceaux et qui peuvent les enchaîner. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'entendre le morceau qui va venir pour voir si l'ambiance, l'énergie du morceau, elle va correspondre à ce que j'ai envie qu'il arrive.
Alors Étienne de Crécy, vous avez 56 ans, je crois.
Ouais.
Et quand dans l'édito que j'ai présenté, vous avez souri quand je vous ai décrit comme un petit personnage de dessin animé qui se met à presque mimer sa propre course. Mais c'est un vrai truc que vous avez, c'est un vrai gimmick.
Oui, c'est marrant parce que...
C'est un personnage, en fait.
C'est assez rigolo parce que ce truc-là, moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques années. C'est mon fils Isaac qui était venu me voir justement dans un festival et qui s'était mis en bord de scène. Il devait avoir 12-13 ans. Et en fait, il m'a dit, ouais, ton jeu de scène, toi, c'est facile. Tu te concentres sur ta musique et après, tu fais semblant de courir.
Ouais, c'est ça.
C'est marrant parce que c'est la première fois que je m'étais rendu compte que j'avais cette mimique de faire semblant de courir. Je savais pas.
Non, mais c'est très festif.
Moi, je croyais que je dansais.
Bah, c'est comme si vous couriez sur place déjà, donc c'est bizarre.
Ouais.
Et le fait de courir sur place, ça donne. C'est toute une idée de l'existence. Et quelque part, la fête, c'est on court, mais on est sur place. Et puis d'ailleurs, même la musique. Il y a un livre très, très, très puissant d'un philosophe qui s'appelle Francis Wolff, qui s'appelle Pourquoi la musique ? Et il dit que la musique nous prouve qu'on n'a pas besoin de savoir où aller pour y aller.
C'est super comme.
Ouais, je vous recommande ce livre. Hein. Et d'accord. À vous tous, d'ailleurs, cet été, là, vous tous et toutes qui écoutez l'émission, Pourquoi la musique de Francis Wolff ?
D'accord, c'est noté.
Ouais. Mais du coup, vous vous êtes rendu compte récemment de ça ?
Que je courais sur place.
Ouais,
non, c'était il y a un moment. Mon fils, il avait 12 ans, il a 20 ans maintenant, donc ça fait une petite dizaine d'années que je sais que je cours sur place, mais je m'en étais pas rendu compte.
Alors Étienne de Crécy, je voudrais profiter de votre présence pour revenir un peu sur la French Touch avec de la distance. Déjà, une idée un peu provocatrice, est-ce que la French Touch, ce serait pas grâce aux Anglais ? Je m'explique. Au début, il y a eu l'interdiction des rêves, je crois, en Angleterre, et du coup, plein d'Anglais sont arrivés en France par le tunnel sous la Manche. Est-ce que c'est pas, au fond, ça qui a participé du lancement du mouvement ?
Peut-être un peu. Est-ce que l'interdiction... Moi, les premières rêves que j'ai fait, alors j'ai fait partie effectivement de la première... Pas de la toute première. Il y a eu une première vague de rêves qui n'a pas trop pris, en fait, à Paris au tout début des années 90. Et en fait, le moment où ça a pris, c'était un peu plus tard. On va dire, il y a une première vague en 90-91 qui n'a pas trop bien marché. Et après, tout d'un coup, je sais pas, un ou deux ans après, le truc a vraiment pris. Nous, les DJ qu'on voyait, ils n'étaient pas obligatoirement anglais, en fait. Il y avait la scène était assez française. Ou belge ou hollandaise, mais c'était pas très... j'ai le sentiment que... Dans mon souvenir, c'était pas très anglais. Après, là où la French Touch est anglaise, c'est que c'est le moment où les journalistes anglais sont intéressés à nous, que c'est devenu un phénomène.
En fait. C'est ça. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un mouvement de groupe ou alors une heureuse rencontre d'individualité?
Je pense que c'est plus une heureuse rencontre d'individualité. Il se trouve que la French Touch, ce qu'on résume sous ce nom-là, ça a pas de, il y a pas un son. Il n'y a pas une musique qui s'y réfère. Il y a plein, c'est-à-dire que R comme Daft Punk font partie de la French Touch.
Ouais, ouais.
Et en fait, la musique, on ne peut pas parler d'un style musical. Il y avait plein, à ce moment-là, au milieu des années 90, il y a eu beaucoup, beaucoup de producteurs qui faisaient une musique qui partait vraiment dans toutes les directions.
Ouais.
Et donc, on ne peut pas parler d'un style musical.
Il y avait des femmes aussi, d'ailleurs. On les a un peu oubliées.
Il y avait des femmes, effectivement, mais c'est vrai que pas beaucoup. C'est un mouvement qui se féminise sur le tard.
Alors je vous propose d'écouter un extrait du documentaire sur DJ Mehdi qui a fait beaucoup de bruit récemment, où on a Pedro Winter qui nous parle du sample de façon très intéressante.
Dans l'hip-hop, mais aussi dans la musique électronique, les gens qui connaissent pas bien se disent « Ah mais tiens, un sample, c'est une appropriation d'une œuvre existante et c'est assez facile à faire. » Et finalement, non, on se rend compte que prendre ce petit bout à ce moment-là, avec telle précision, faire en sorte qu'il tourne en boucle, c'est un travail un peu d'orfèvrerie. Et c'est ça le talent de DJ Mehdi, c'est d'arriver à trouver le bon moment dans une œuvre existante et de se le réapproprier, de le réinventer, de le transformer, de le répéter et de créer une nouvelle œuvre.
Tout le monde s'en plaît. Et la manière dont DJ Mehdi samplait, c'est incroyable. Mec, il est là, il sort le vinyle, il pose le vinyle. Il sort une boucle. Il remet à l'envers, il ralentit, qu'il a coupé et qu'en fait une tuerie.
C'est un bon exemple. Hein.
C'est un super bon exemple. Alors le documentaire, il est particulièrement bien fait sur tout ce qui est justement tout ce qui est technique, tout ce qui se passe en studio, tout ce qui est production, qui est souvent décevant dans les documentaires ou dans les films.
Ouais.
Beaucoup de réalisateurs fantasment ce moment de la création. Et là, c'est vrai que dans ce documentaire, Thibaut, il a réussi à faire un truc qui est très très qui est très vrai, en tout cas.
Qui est très pédagogique aussi.
Qui est très pédagogique et complètement compréhensible, même si on s'y connaît pas,
ouais.
Mais qui est près de la vérité. Pour les producteurs aussi, c'est très bien fait. Ouais.
Ouais. Et donc, cette façon de. Cette technique du sample, elle est effectivement. On découvre que ça se joue à rien, en fait, que ça marche ou pas. C'est ça, au fond.
C'est le choix, en fait. Les producteurs de musique électronique, ils font des choix. L'idée, c'est qu'on n'est pas virtuose. On ne sait pas jouer d'un instrument. Moi, je tape dans mes mains, pas en rythme, quoi.
Ah ouais, ouais.
Mais par contre, je fais des choix. Alors, ça se rapproche un petit peu de, on va dire, ça se rapproche un peu de ce que Marcel Duchamp a fait au monde de l'art. C'est-à-dire qu'on est artiste parce qu'on a décidé que dans cet album-là, c'est ces deux mesures qui sont intéressantes.
Ouais.
C'est un peu le.
Ouais, c'est de la vision, de la décision, quoi.
C'est de la décision, ouais, ouais. Mais c'est un peu le porte-bouteille. On a dit, lui, il a dit, Marcel Duchamp, il a dit, le porte-bouteille, c'est une œuvre d'art,
ouais.
Parce que j'ai
décidé, ouais.
Donc c'est ça l'œuvre d'art. Et ben, nous, producteurs de musique électronique, on a dit, dans ce disque-là. Et là, il y a un mouvement, c'est assez marrant dans le hip-hop américain, où du coup, ils travaillent plus du tout les samples maintenant. C'est juste, ils prennent deux mesures, ils mettent en boucle, et ils rajoutent plus. C'est-à-dire que là où nous, on agrémentait les samples, on rajoutait des sons de grosses caisses,
ouais,
de caisses claires, de trucs comme ça. Là, maintenant, il y a une nouvelle école qui
rajoute plus
rien.
C'est encore plus nu.
Ouais, ouais.
C'est vraiment le geste de Duchamp, pour le coup.
Là, c'est vraiment le geste de Duchamp.
Comme si on revenait en arrière dans le siècle,
ouais, ouais,
pour arriver au geste de Duchamp. Alors, Étienne de Crécy, je voulais que cette rencontre avec vous permette de voir vos différentes facettes. Au début, j'avais un peu peur de commencer par le DJ, mais vous m'avez dit que je m'étais trompé, mais j'avais peur que vous trouviez ça réducteur. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes compositeur, producteur, vous faites des albums, et de l'autre côté, DJ, est-ce qu'il n'y a pas une tension un peu paradoxale entre l'humilité de celui qui travaille tout seul et quand même une sorte un peu d'ego trip du DJ?
Alors l'ego trip, il se passe en studio aussi.
Ah ouais. Je suis rassuré.
en fait, c'est la théorie et la pratique. C'est-à-dire que on prépare. En fait, en studio, moi, je fourbis mes armes.
Ouais, ouais.
Justement, c'est-à-dire que
vous anticipez l'ego trip.
J'anticipe, ouais, l'ego trip, exactement. Et donc, alors un peu moins pour l'album Warm Up, justement, qui était moins destiné au peak time.
On va en parler, bien sûr.
Qui était un peu moins destiné à ce moment. le moment effectivement où un club explose, où tout le monde est ensemble. Et donc ça, c'est vrai que donc il y a moins sur Warm Up, mais la musique que je fais jusqu'à présent,
oui, je sais.
Quand même, je prépare mes effets et je me dis là, à ce moment-là, dans un club, ça va marcher. Donc il y a quand même, en tout cas, il y a l'ambition de l'ego trip quand on est ensemble.
Alors ce moment où ça marche, parlons-en, parce que c'est tout le monde en rêve, on rêve de le vivre, de le revivre, de s'en souvenir. Quand même, il se passe quoi? Comment vous le vivez, ce moment où tout le monde est ensemble, tout le monde kiffe, et au fond, vous avez ça au bout des doigts, quoi?
Ouais, alors... Donc, il y a un truc qui est très gratifiant, quand même. Il y a un truc qui est effectivement très gratifiant quand... Mais en vrai, c'est le morceau que je suis en train de passer. Assez souvent, ce moment-là, il arrive aussi sur des morceaux qui ne sont pas les miens. Donc, je partage, en fait, finalement, cet ego trip, ce moment-là. Effectivement, je le partage avec le producteur qui a fait... Je dois beaucoup aux producteurs de musique qui font les morceaux sur lesquels tous les gens... tous les gens se mettent ensemble au même moment. Donc ça, il y a un côté aussi... Le DJ a un peu l'humilité aussi. Alors moi, je suis DJ producteur. Il y a plein de DJ qui ne sont pas producteurs. Et donc le DJ, il sait aussi qu'il dépend des producteurs. Il dépend de la musique qu'il va jouer.
Alors Étienne de Crécy, vous avez sorti il y a quelques mois, en mars, cet album Warm Up, un peu différent. Je dirais plus doux, avec aussi plus de chanteurs et de chanteuses qui sont invités. On va d'abord écouter un extrait avec Damon Albarn, chanteur de Blur et de Gorillaz notamment. Et puis après, on va essayer de comprendre comment vous êtes passé comme ça d'une musique pour danser la nuit à une musique pour écouter le jour. Étienne de Crécy et Damon Albarn, Rising Soul.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Étienne de Crécy sous le soleil de Platon et on vient d'écouter, cher Étienne, ce très beau duo avec Damon Albarn dans un extrait de votre dernier album, Warm Up. Et d'ailleurs, là, on entend aussi un autre extrait.
Oui.
Donc, c'était quoi ce projet un peu différent?
C'est-à-dire le projet Warm Up?
On a l'impression que vous avez invité à chaque fois une voix à se poser. Moi, j'imagine que la musique était faite avant et que la voix s'est posée après, mais j'ai peut-être rien compris.
Si. En fait, grosso modo, c'est comme ça. J'ai fait un certain nombre d'instrumentaux et ensuite, j'ai envoyé ces instrumentaux à des gens. J'ai demandé à des gens dont je suis fan. J'ai envoyé l'instrumental en disant si tu veux chanter sur mon album, chante sur cet instrumental.
D'accord.
Et donc, les gens m'ont envoyé des voix et selon... les voix, il y a des instrumentaux qui n'ont pas changé du tout et il y en a d'autres où j'ai dû tout refaire parce que ça, par exemple celui qu'on est en train d'écouter en ce moment là,
c'est qui?
Kero Kero Bonito, c'est un groupe anglais de londonien et en fait là, la version qu'ils m'ont envoyée, enfin la voix est super, Mais alors j'ai je suis passé par une quinzaine de versions différentes de l'instrumental pour arriver à celui-là.
D'accord.
L'instrumental de départ n'a vraiment rien à voir avec ça.
Et alors la chanson avec Damon Albarn ?
Non, alors la chanson avec Damon Albarn, c'est une autre histoire, c'est une chanson qui a été enregistrée il y a 20 ans. En fait, c'était un projet que j'avais juste après Tempo Vision, j'avais projet de faire une... Alors c'est un peu compliqué, j'avais projet de faire une comédie musicale. C'est-à-dire que je voulais inviter des gens à chanter sur ma musique. Et je m'étais dit, plutôt que de donner juste les morceaux sans thème spécifique, j'avais écrit une comédie musicale un peu élaborée. Et j'avais envoyé les morceaux aux artistes en disant, tu seras tel personnage. Et donc Damon m'avait répondu à l'époque. Il avait fait cette chanson qui était une chanson plutôt lente.
C'était l'époque de Blur en plus.
C'était l'époque de Blur, c'est l'époque Gorillaz, c'était l'époque aussi The Queen, The Bad, and the... je me souviens plus, il y avait un groupe aussi comme ça qui était... Bon, je suis un énorme fan d'Abon Albarn, et donc j'étais hyper content qu'il fasse le featuring, et en fait après mon projet de comédie musicale c'est un peu ensablé, c'était très compliqué. Entre temps j'ai fait le Super Discount 2 en me disant, pour passer le temps, parce que sinon ça va me prendre trop de temps, je vais faire un petit truc vite fait comme ça, et en fait le Super Discount 2 il m'a amené sur la route pendant des années, et donc le projet s'est ensablé, et cette chanson d'Abon Albarn qui était dans mes disques durs depuis 20 ans, j'avais aucun autre projet qui correspondait à ça. Et c'est qu'au moment où j'ai fait Warm Up, j'ai commencé plusieurs morceaux, je me suis rendu compte que j'avais des tempos assez différents, et je me suis souvenu de cette chanson, et donc voilà, j'ai un peu retravaillé la chanson, et je lui ai envoyé en lui disant, voilà, c'est 20 ans après, je suis pas très rapide, mais est-ce que t'es d'accord pour qu'on la sorte ? Et il m'a dit oui.
Élégant. Et puis il a eu bien raison, et d'ailleurs, c'est donc des tempos plus lents, on sent l'influence du Covid, c'est ça ? C'était ces années-là ?
Alors en fait, c'est effectivement, j'ai commencé l'album au moment du Covid, où les clubs étaient fermés, et j'avais pas, comme je disais tout à l'heure, théorie pratique, c'est-à-dire que la théorie du morceau Peak Time, alors que tous les clubs étaient fermés, ça marchait pas, j'arrivais pas à faire cette musique-là, j'arrivais pas à faire de techno, et en fait, mais par contre, les tempos lents, c'est un truc que j'ai toujours fait, en fait, dans le premier album, mon tout premier album de Super Discount, même l'album de Motor Bass,
avec
Philippe Zdar, et Tempo Vision, c'est des albums où il y a toujours eu des morceaux assez lents. Quand on a commencé justement à l'époque de la French Touch, c'était pas aussi spécifique que ça, la musique électronique. Elle partait dans toutes les directions. C'est-à-dire, comme je disais, il y avait Air, il y avait aussi DJ Gilbert, Versatile, il y avait plein de styles différents. Et les tempos, c'était beaucoup plus poreux, les frontières entre les styles musicaux. Et tout le monde s'essayait un peu à tous les styles. Et donc, moi, j'ai toujours eu ce truc-là de faire des tempos lents. J'avais un peu abandonné parce qu'effectivement, la scène et le DJ, mon métier de DJ, me poussaient à faire des morceaux qui étaient... quand je dis peak time, c'est-à-dire c'est vraiment le grand moment dans un club. Et donc j'avais un peu mis ça de côté, mais en vrai, c'est une musique que j'aime bien faire.
Et vous avez aussi, donc, à l'époque, il y avait ce sublime album, Pansoul, je ne sais pas comment on prononce.
Pansoul, ouais.
Pansoul, avec Motor Bass. Et il y avait beaucoup d'influence du hip-hop aussi dans cette période-là.
Il y avait beaucoup d'influence du hip-hop, ouais, effectivement. C'était deux scènes, en fait, c'est assez marrant, parce que c'était deux scènes. Donc, moi, je travaillais avec Philippe Zdar, qui était l'ingénieur du son de MC Solar. Donc, j'étais son assistant, on travaillait ensemble sur les albums de MC Solar. En fait, c'est là où on a découvert, avec Jimmy Jay et Hubert Blanc-Francard, Boom Bass, qui travaillaient avec des samples, qui faisaient des instruments avec des samples. Nous, on écoutait de la techno le week-end dans des raves. Et en fait, on s'est dit... on va mettre les samples qu'utilisent les producteurs de hip-hop dans la musique électronique, qui n'était pas du tout, qui n'utilisait pas les samples, qui utilisait surtout des synthés et des boîtes à rythme, donc c'était une musique plutôt froide. Et en fait, ce qu'on a fait avec Philippe, dans Motor Bass, ce que j'ai fait avec Super Discount.
Parce qu'on est en train d'écouter d'ailleurs Les Ondes, là, c'est un extrait, Les Ondes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, tout d'un coup, on a amené de la chaleur dans la musique électronique, et en fait, finalement, c'est ça que les gens ont appelé French Touch.
C'est ça, exactement. Si j'essaye de traduire un peu pour les gens, il y avait quelque chose de minimal, des boîtes à rythme, des séquenceurs de basse, un synthé vintage. Ça, c'est le côté un peu froid, un peu métallique. Si on prenait la métaphore Apollon et Dionysos, ce serait apollinien. Et de l'autre côté, il y a le festif, il y a la happy music, le côté dionysiaque. Et presque, la French Touch, c'est la synthèse, non ?
Voilà, ce serait la synthèse. Mais le truc de la techno, c'était qu'il y avait quand même... c'était déjà un mélange, en fait. La techno en soi, c'est déjà un mélange de new wave et de disco, on va dire, ou de funk. Il y avait déjà ce mélange-là, mais qui était fait avec que des sonorités assez arides, on va dire.
Ouais.
Mais il y avait quand même un esprit. Il y a un esprit de la fête, et il y a un côté très funky dans les morceaux de techno du début de Détroit.
Détroit, bien sûr.
Ouais. Il y a quand même ce truc-là.
Nous, il y a déjà du disco dans la techno.
Mais en fait, c'est pas du disco dans les sonorités, c'est du disco dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est quand même la grosse caisse tous les temps. Donc, ce qui fait que c'est ce rythme-là, en fait, avec le charlet en l'air. Donc, c'est le C'était l'esprit, c'était les rythmes du disco, mais avec une musique, avec la froideur, on va dire, de la New Wave. Et c'est vrai que nous, peut-être ce qu'on a amené, c'est une accessibilité à la musique, le fait que c'était des samples, donc c'est des sonorités que les gens connaissaient, auxquelles c'était plus facile de rentrer dans la musique électronique qu'on faisait nous, que de rentrer dans la techno, parce que ça avait un côté un peu aride. Alors que nous, tout d'un coup, c'était des samples, les gens, ils reconnaissaient les sonorités, ils reconnaissaient qu'il y avait des guitares, il y avait des instruments en bois, si vous voulez. Et donc ça a rendu cette musique-là accessible, je pense. Ouais. Il y a aussi, pardon, ce truc, c'est qu'on utilise les filtres. C'est-à-dire que le filtre, c'est l'instrument qui donne de la vie au synthétiseur. Le filtre, c'est on enlève des aigus ou on rajoute des aigus ou on enlève des basses. C'est ça le filtre, en fait, c'est un equalizer. Et nous, on l'utilisait sur des samples. Et ça, c'était un peu la nouveauté. C'est-à-dire que tout d'un coup, on enlevait tous les aigus d'un sample. Là, c'est ce qu'on a entendu dans ce texte-là. Ouais, ouais. On enlève toutes les basses. Et tout d'un coup, ce sample, qui normalement est toujours le même son en répétition, on lui donne de la vie et on lui donne une expression.
Incroyable, c'est hyper beau ce que vous venez de dire avec pédagogie. Et ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et je pense que je suis pas le seul. C'est qu'en fait, il y a du coup, vous inventez une forme de variété dans la répétition, une forme de souplesse, presque quelque chose de doux. Et ça, vous venez d'expliquer comment, j'avais jamais compris, en enlevant des basses et en rajoutant quoi ?
En fait, en enlevant des basses ou en enlevant des aigus. C'est-à-dire que... Et c'est ce que fait le DJ aussi dans un club, souvent. Ouais, ouais. Si le morceau, tout d'un coup, il y a un peu une longueur, on coupe toutes les basses, par exemple, et là, on laisse que les aigus. En général, les gens réagissent à ça.
Ouais, et là, vous attendez.
J'attends.
Et évidemment, après, vous remettez les basses. Et là, tout le monde lève les bras.
Voilà.
Et ben, ça nous donne envie. Merci beaucoup, Étienne de Crécy. Est-ce que je me trompe, si on revient sur l'expérience Motorbass et sur cet album complètement culte, Pansoul, est-ce qu'on peut dire que vous étiez plutôt Apollon, vous, et lui, Philippe Sdar, Dionysos ? Vous voyez ce que je veux dire ? Apollon, c'est froid, mais c'est très propre, très équilibré, c'est métallique, c'est architectural. Et puis, Dionysos, c'est plus fou et festif.
Ça peut coller, en fait. Ouais. Ça peut coller en un sens. Ça peut coller en un sens. C'est vrai que Philippe Sdar était quelqu'un qui était assez fou. C'était et je suis peut-être plus analytique que lui.
Oui, voilà. Alors, autre chose importante dans votre travail, on n'en a pas encore parlé, dans toute votre histoire, c'est l'attention au visuel, au graphisme. Vous avez fait des grands spectacles visuels avec des cubes de verre empilés, avec des jeux de chromatisme. Vous avez d'ailleurs un frère graphiste, Geoffroy de Crécy. Ça, c'est important pour vous. C'est pas le cas du tout de tous les acteurs de la French Touch.
Alors, je pense que je crois que je suis plus fier de mon œuvre graphique que de mon œuvre musicale, en fait. J'ai eu le sentiment, autant la musique, je sais que je pars dans toutes les directions et que j'ai fait plein de styles très différents. J'ai pas une œuvre très rectiligne, on va dire, musicalement. Alors que par contre, graphiquement, je sais que j'ai le trait est droit.
Il y a une esthétique cohérente.
Il y a une esthétique cohérente depuis le début.
C'est peut-être ça qui va rester.
J'aimerais bien. Ouais. j'aimerais bien que la musique reste aussi, parce que je suis assez fier aussi de la musique. Mais c'est vrai que là, je vois que j'ai une plus grande constance dans la création visuelle, et c'est vrai que je suis passionné de ça aussi.
Et vous avez travaillé les correspondances, de toute façon.
Alors tous mes frères sont graphistes. Mon frère Nicolas est dessinateur de romans graphiques.
Nicolas de Crécy.
De Crécy, et donc et Geoffroy de Crécy, il est aussi illustrateur. Il a fait donc mes vidéos à l'époque de Tempo Vision. Il a fait des vidéoclips. Ouais. Et mon plus jeune frère aussi, Hervé. Et graphiste aussi.
Hommage aux trois frères et pas à un seul, comme je l'ai dit.
Et à ma sœur aussi, du coup, on a évoqué mes trois frères, je suis obligé d'évoquer ma sœur aînée,
qu'est-ce qu'elle fait ?
Béatrice. Elle a une marque, alors je fais de la publicité, ouais. C'est une marque de bonne maison qui fait des chaussettes très belles, très, justement avec un très beau graphisme, une très belle image et des chaussettes de grande qualité.
Donc c'est très intéressant. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait peut-être sur les pochettes aussi du graphisme vos pochettes étaient particulières.
Les pochettes étaient particulières. C'est vrai que dès le début, dès le tout début de ma carrière, j'ai fait appel donc à des amis qui étaient graphistes. C'était Antoine Bardoujaquet et Ludovic Couplin qui avaient cette agence H5. Et donc j'ai fait appel à eux et moi j'étais fasciné par les pochettes Blue Note, en fait, par le catalogue Blue Note qui avait justement une direction artistique magnifique. Et quand on a commencé le label, donc on a monté ce label solide avec Alex Goffer et Pierre-Michel Levallois, et notre référence était effectivement d'avoir une ligne graphique, une direction artistique pour les pochettes, et donc on a fait appel à nos amis qui venaient de sortir de l'école et qui montaient leur agence. Et il se trouve que c'était des amis, mais on s'est rendu compte après qu'en plus ils avaient du talent. Et ensuite, donc j'ai travaillé avec eux pour toutes mes pochettes, et petit à petit, j'ai appris à me servir aussi des logiciels de création digitale. Et donc là maintenant, je participe aussi beaucoup à la création des pochettes.
Alors dans votre dernier album, Warm Up, donc il y a des duos, donc on n'a pas cité les autres, donc je vais le faire, Damon Albarn évidemment, mais aussi Alexis Taylor, Peter Van Poel bien sûr, avec cette très belle voix, Olivia Merilati, on va écouter un tout petit son, Olivia Merilati. Ça, c'est Karma.
C'est Karma, ouais. C'est Karma, et donc c'est avec Olivia. Alors, je suis un énorme fan d'Olivia, c'est-à-dire qu'elle a quand même... non seulement c'est une super interprète, mais surtout elle écrit des mélodies qui, moi, me touchent tout le temps, en fait. Toutes ses chansons, il y a toujours un truc que je trouve bien, qui en même temps, c'est des mélodies toujours de qualité et qui sont catchy aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois des mélodies qui sont très séduisantes, mais qui ne restent pas et qui ont pas obligatoirement beaucoup d'intérêt, et elle a ce truc-là d'avoir une profondeur à chaque fois dans ses mélodies.
Et bien vous trouverez tout ça dans Warm Up de Étienne de Crécy, sorti récemment en mars 2025.
À faire comme un jeudi go. S'il y a un péqué à se faire, moi je dis go, go. Pour mes orphelins, mes enfants, un dit go, go. T'es autour, un peu sweet, tu me donnes le go.
Théodora et Luigi Go.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Étienne de Crécy, sous le soleil de Platon. Et là, nous venons d'écouter, après avoir écouté Théodore et Luigi, un autre extrait de votre dernier album, Warm Up. C'est le duo avec la sublime voix de Peter Van Poel, Brass Band.
Oui, j'étais très content. Alors, Peter Van Poel, on avait déjà travaillé ensemble. C'est lui qui avait écrit la mélodie de mon morceau You. qui était chanté par Madeleine Follin, la chanteuse de The Cults. Mais ouais, c'est lui qui avait fait la mélodie, donc on avait déjà travaillé ensemble. Pareil, mélodiste de folie, et en plus, très très bon chanteur. Alors, on s'est rencontrés après, mais j'ai d'abord été un énorme fan, c'est-à-dire son premier album, dont je ne me souviens plus le nom.
Avec sa voix incroyable.
Ouais. C'est incroyable, c'est un album vraiment magnifique, et celui-là, je l'ai poncé, j'ai écouté des milliers de fois.
Donc vous vous êtes fait plaisir avec ce warm-up, vous avez invité tous les gens que vous adorez à poser la voix, quoi.
Voilà, j'ai commencé, j'ai fait ça en fait, j'ai vraiment, il y a que des gens dont je suis fan. C'est vrai que le featuring, le fait d'inviter sur les musiques électroniques, il y a souvent un peu un concours de notoriété pour les invités. C'était pas obligatoirement dans cette optique-là, moi, que j'ai invité les gens, c'était vraiment les gens dont j'écoute beaucoup la musique.
Alors justement, Étienne de Crécy, je profite, donc voilà, le patron, comme vous avez appelé, suite à un de vos premiers morceaux, le patron est devenu fou, voilà. Je profite de votre présence pour revenir aussi, encore une fois, sur l'histoire de la French Touch. Il s'est passé quelque chose de particulier, justement, dans le rapport à l'ego, puisque d'un côté, ces gens sont devenus des stars, et des stars planétaires, mais en même temps, les Daft étaient masqués, donc des stars sans visage. Le DJ s'est retrouvé dans une cabine. Est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter ce mouvement comme quelque chose de très beau, où il a fallu, presque pour sauver l'âme, masquer le visage ?
Oui, alors c'était des préceptes, c'est les préceptes des fondateurs de la techno de Détroit, en fait. C'est le label Underground Resistance. Et en fait, il y a un des DJ fondateurs qui s'appelait Mad Mike, qui était masqué. Et en fait, le principe de la techno à cette époque, c'est effectivement de dire c'est la musique qui est importante. C'était une musique qui s'inscrivait contre le star system. Et en fait, contre les... C'était l'époque des boys bands, en fait. Ouais. Des gens qui étaient là que pour leur physique, qui écrivaient pas les chansons, qui les chantaient à peine. Et donc, la techno... nous, ce qui nous a séduit dans cette proposition américaine, c'était de dire, eh ben, on met la musique avant tout, les artistes sont pas très importants.
Ouais.
Et comme en plus... en fait, pour moi, c'était un peu l'aboutissement. J'aurais aimé être punk, mais j'étais trop jeune, j'ai raté cette génération-là.
Et puis vous avez quand même des chaussures bateau.
Et j'ai maintenant des chaussures bateau. Donc c'est dur. Mais j'avais des Doc Martens à l'époque du punk.
Oui. Non, je dis ça parce que
Et puis la crête, je peux plus tellement la faire maintenant... Donc ça m'arrangeait en fait de masquer mon visage et de pas être trop présent, ça m'arrangeait.
Mais je vous ai vu hein, récemment mixer avec vos chaussures bateau.
Effectivement, en Bretagne, donc ça va.
C'est quand même rare.
Ouais, c'est rare. On voit souvent pas les pieds du DJ.
Ouais, c'est vrai.
Donc on peut se permettre. Je pourrais être en short même des fois, ouais. ça se verrait pas.
Est-ce que vous êtes au courant de la petite polémique qu'il y a eu récemment sur la French Touch au patrimoine de l'UNESCO ? Emmanuel Macron a eu cette idée et il y a eu une levée de bouclier.
Alors non, c'est parce qu'il a dit on a inventé l'électro. En fait, il s'est trompé, je crois.
Ah oui.
D'après ce que j'ai compris, il a dit la France a inventé l'électro. Or, non. Et après, la French Touch, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la French Touch, c'est quand même désigné par un terme anglais.
Ouais, bah oui,
donc c'est ça qui est rigolo. Et déposé au patrimoine de l'humanité, je sais pas si je lèverais, si je prendrais l'énergie de lever un bouclier. Je m'en fous un peu.
Alors, Étienne de Crécy, j'ai commencé l'émission en racontant qu'avec vos 56 ans, vous aviez cette espèce de joie, un peu de jeunesse, en fait, à faire danser tout le monde, et quelque chose de très généreux, au fond. Eh bien, je voudrais vous faire écouter maintenant, on va passer des jeunes aux plus vieux, et voir que peut-être, vu qu'on vieillit tous et qu'on va vivre de plus en plus vieux, il faudrait essayer de mettre des dance floors dans des EHPAD, peut-être.
Allez les amis, c'est parti. Allez, monsieur.
Donc j'ai été dansé et c'était très bien organisé, très bien réussi. C'était évidemment très tard, mais ça ne m'a pas gêné outre mesure. Et la musique, c'est une musique originale, mais c'est une musique sans arrêt, sans début ni fin, sans titre et sans parole, quoi. Mais ça m'a tout de même plu.
Je me sens bien. Il est 2h30 du matin et je me sens en forme.
J'aurais pu rester une heure de plus.
Rentrez bien, mademoiselle.
De toute façon, il y a quand même ce truc-là, que la danse, c'est une activité qui est hyper importante.
Ouais.
Effectivement, c'est un truc qu'il faut pas perdre. Alors, et c'est vrai, ce que vous avez dit dans votre présentation est assez vrai, c'est-à-dire que les clubs restent très jeunes. Alors c'est en France particulièrement, c'est vrai qu'en France, quand on va dans un club après 30 ans, on est suspect.
Ouais, c'est dommage d'ailleurs.
C'est un truc qui est pas du tout la même chose en Allemagne, en Italie ou en Belgique. Il y a plus d'adultes, on va dire, dans les clubs. En France, c'est vraiment bizarre.
C'est dommage.
Ouais, c'est dommage, c'est dommage.
Vous pourriez peut-être faire quelque chose pour...
Mais moi, j'y peux rien, c'est vraiment une culture d'un pays. Je peux essayer, mais faire des fêtes spéciales seniors, je sais pas si c'est... Non, en plus, parce que les jeunes n'iraient pas. Non, c'est vraiment une culture, et ça, je sais pas si on peut y faire grand-chose.
C'est Nietzsche qui disait « Une journée où l'on n'a pas dansé est une journée perdue ».
Ça, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important. Qui est hyper important. En tout cas, c'est des bons moments. Moi, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien ça quand je suis DJ. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens... En fait, je mobilise les informations qui leur arrivent au cerveau, parce que la musique est tellement forte qu'il n'y a pas... à part le copain bourré qui essaye de dire des trucs, mais sinon, normalement, tout vient... toutes les vibrations de l'air vont dans le cerveau des gens, et ils sont tous ensemble, ils écoutent tous la même chose. Donc, il y a ce truc-là qui est assez... on est vraiment tous ensemble, d'une manière complètement pas intellectuelle, en fait. C'est ça, ce truc que j'aime bien. Et cette énergie de la danse, quand tout le monde danse de manière assez... chacun danse comme il veut, en fait, c'est ça qui est assez marrant. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une
Vous
expérience...
observez beaucoup, ça ?
Ouais, bien sûr. Moi, je dois regarder comment dansent les gens, c'est ça qui m'amène...
C'est ça qui vous guide.
C'est ça qui me guide, et c'est ça qui me guide. Et c'est ça. Et moi, je vais les guider, mais ils me guident aussi. C'est-à-dire que je dois savoir l'énergie qui va aller avec eux. Il y a des musiques qui parlent à la tête, des musiques qui parlent au cœur, des musiques qui parlent au bassin, et moi, je dois savoir où est-ce qu'on va aller, en fait.
Et parfois, quand ça, j'imagine que ça doit vous arriver rarement, mais peut-être parfois, quand ça n'apprend pas, comment vous le vivez ?
Ah, moi, on le vit très mal, parce que mon boulot, c'est que ça prenne. Mais ça arrive, bien sûr, ça arrive tout le temps que ça prenne pas, en fait. Et même des fois, on se trompe, effectivement, le morceau qu'on met, on se trompe d'énergie, c'est aller trop vite, trop loin, Et là, à ce moment-là, on voit...
Ou alors, on a trop pris une routine, un chemin qu'on a déjà emprunté, mais qui n'est pas adapté au présent ?
Ça peut arriver. Ça, effectivement, ça peut arriver. Il y a des morceaux. Alors, moi, je sais qu'il y a quand même certains morceaux. Je sais qu'ils vont bien s'enchaîner.
Ouais.
En fait, mon travail, je vois, en fait, j'ai 4-5 morceaux. Je sais qu'ils s'enchaînent bien. Donc, si je vois si le premier, il marche bien, je sais que j'ai 3-4 morceaux après.
Il y a quand même du métier.
Ça, par contre, il faut bien connaître ces morceaux. Et il y a des essais, en fait. Il y a des essais. Mais par contre, une fois que je connais bien mes morceaux et que je sais où est-ce que je dois les mettre, c'est-à-dire que je peux... Il y a vraiment des sets où je suis dans le rebond, où je fais pas d'erreur, et à ce moment-là, il y a pas de temps mort, et j'arrive à faire monter les gens très haut. Et ça, il faut bien connaître ces morceaux et bien s'adapter, parce que ça peut pas être une routine, ça peut pas le set, il peut pas être préparé à l'avance, ça marche jamais. Mais dans ce truc-là, il peut toujours avoir un accident, on peut toujours être un excès de confiance, et on se dit ben là, tout d'un coup, je peux faire péter avec ce morceau-là, puis en fait, il est trop violent pour le moment, ça casse l'ambiance. Alors des fois, ça casse un peu l'ambiance, des fois, ça casse complètement l'ambiance. Et après, c'est dur aussi de ramener l'ambiance, parce que quand on a cassé l'ambiance, il y en a certains qui sont partis dans cette ambiance-là, et si on rechange trop vite, on perd ceux qui étaient partis dans l'ambiance, ça ramène pas les autres, donc ça peut être un peu délicat.
C'est hyper intéressant. Parfois, vous êtes surpris par le fait que ça monte plus encore que vous ne le pensiez ?
Alors, il y a ça, et puis aussi, il y a des morceaux, j'essaye des morceaux, évidemment, moi, j'achète beaucoup de morceaux, j'ai besoin, les DJ doivent jouer de la nouveauté, donc j'achète beaucoup de nouveautés, et donc il y a toujours un moment où les morceaux, je les essaye, en fait. Il y a toujours un moment où celui-là, hop, je n'ai jamais essayé. Et donc, il y a des morceaux, des fois, et c'est ça qui est assez dingue, c'est on les écoute en studio, on les écoute au casque, on dit ouais, si, il a l'air pas mal, tout ça. Il y en a d'autres, il est un peu pourri, il est bizarre, mais il y a un truc, je sais pas. Et il y a des fois des morceaux qui se révèlent avec un dance floor, qui se révèlent, et tout d'un coup, c'est des...
Donc il y a des morceaux qui sont en vérité pas très bons selon vous dans l'absolu, mais qui sont bons pour le dance floor.
Alors moi, je joue que des bons morceaux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des...
un parti pris éthique et
esthétique. Ouais, ça c'est un parti pris éthique. Il y a des DJ qui jouent des tubes, même s'ils n'aiment pas. Et j'ai des DJ qui me disent, ah ouais, dans ce morceau-là, je le joue pas, mais quand même, il met tout le monde d'accord. Ça, pour moi, c'est impossible.
Prenez un exemple de ce que vous ne joueriez jamais. Dans le genre tube qui vous plaît pas, quoi.
Alors, il y a des tubes qui me... Attention, il y a des tubes... J'ai pas de nom, là, comme ça, qui me vient à l'esprit. Mais par exemple, il y a un tube qui me plaît, mais que je joue pas parce qu'il y a trop de gens qui le jouent, c'est le Satisfaction de Benny Benassi, qui est un tube, tous les DJ le jouent, c'est un morceau par contre, en revanche, que j'adore, mais je vais pas jouer ce morceau parce que c'est trop un tube.
C'est pas votre patte, quoi, c'est pas votre marque.
Ça pourrait être ma marque, mais il est trop connu, tout le monde le joue, donc moi je le joue pas, je joue, en fait les tubes, je joue que les miens. Et sinon, j'essaie de faire découvrir de la musique aux gens.
Alors on va profiter de votre présence, Étienne de Crécy, avant que l'émission n'arrive à sa fin, puisqu'on est en fin juillet. Vous qui êtes un connaisseur, qui avez un long chemin dans la musique, est-ce que vous pourriez nous recommander quelques titres là pour cet été? Je dirais aller 7, une petite playlist de 7 titres.
Alors là, c'est compliqué parce que en fait, j'ai pas préparé ma playlist. Il faudrait que
trois morceaux.
En impro comme ça.
Déjà parmi les vôtres, déjà j'en profite pendant que vous cherchez pour recommander votre dernier album Warm Up, et notamment moi j'ai adoré le morceau avec Alexis Taylor. On peut peut-être l'écouter d'ailleurs avec Alexis Taylor, World Away. On l'a pas écouté encore. Alors, Alors, pendant qu'on a mis un extrait de un des duos de votre dernier album, Warm Up, donc c'est World Away avec Alexis Taylor, j'adore ce morceau, on va le laisser défiler pendant la fin de l'émission, et pendant ce temps, vous avez saisi votre iPhone, et vous allez nous recommander quelques titres.
Alors, je vais regarder...
Étienne de Crécy.
Déjà, il y a un album là, que j'écoute en boucle en ce moment, alors j'écoute de la musique, j'ai deux trucs, j'écoute de la musique normale,
ouais.
Et j'achète de la musique pour, les DJ, pour mes DJ sets en fait.
Ouais.
Mais ce que j'écoute à la maison, c'est de la musique que j'appelle normale.
Alors notez bien.
Donc là, il y a un album que j'écoute en boucle, c'est Cosmic Crooner,
ouais.
qui vient de sortir un album qui s'appelle European Vacation.
D'accord.
C'est un crooner, c'est-à-dire c'est un gars qui fait de la musique crooner très très classique. Cosmic Crooner.
Okay.
Et vraiment cet album, j'écoute en boucle, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Moki qui vient de sortir un album qui s'appelle Music Will Explain. Après, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bart.
D'accord.
Alors j'écoute des albums. Donc Bart, l'album il s'appelle Some Kind of Way.
Ok.
C'est assez bizarre.
Merci pour tous ces cadeaux.
C'est un groupe assez étrange par contre, parce que ça peut aller jazz fusion avec des morceaux assez rock. C'est très éclectique comme album,
mieux.
C'est vachement bien.
C'est super.
Il y a un jeune artiste aussi de Los Angeles qui s'appelle Ben Variant.
Ouais.
Et donc je conseille l'album Snip, S-N-I-P. Voilà. Et sinon il y a le groupe aussi Paris, Texas. Donc l'album que j'aime bien moi c'est Mid Air.
Eh bien, merci beaucoup Étienne de Crécy pour tous ces conseils, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait comprendre plein de choses sur votre façon de composer, sur l'histoire de la French Touch, sur cette espèce de magie de la techno, du disco. On a voyagé avec vous, c'était un plaisir. Je recommande votre dernier album, Warm Up, sorti en mars 2025, et je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors c'est très clair, une dialectique entre l'humilité et l'ego trip, et cette humilité de reconnaître ses ego trips, ça fait plaisir. Une philosophie, bien sûr, de la générosité. Et puis, j'ai entendu beaucoup dans cette façon de regarder les gens danser, de les regarder réagir, de les observer. Une philosophie de l'attention et de l'écoute. Une philosophie, pour finir, que je dirais nietzschéenne, puisque je vous rappelle que Nietzsche disait « Une journée où l'on n'a pas dansé est une journée perdue ». Et je précise, Étienne de Crécy, qu'on peut vous retrouver ce soir à Fréjus comme DJ, mais aussi demain au Vélodrome d'Arcachon, le 2 août au Ronquière Festival, donc à Ronquière, et le 9 octobre à Londres, à la Color Factory. Merci beaucoup Étienne de Crécy.
Merci.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Alicia Vulot et Antoine Larcher, avec à la technique Gaspard Guy Bourget. I come home every night to find a fight within my body and mind, body and mind. We break the rules just by us, and then we try to uncross the line. Closed for another day.